Je pense qu'on doit lire cette encyclique dans le prolongement de la première sur la charité. Et le pape veut recentrer la vie chrétienne sur l'essentiel qui est la vie des vertus théologales, foi, espérance et charité. Peut-être certains se demandent s'il y aura une troisième encyclique sur la foi, mais déjà dans la seconde, il est question aussi de la foi à travers l'espérance.
Le pape s'arrête sur le progrès en définissant les limites.
Depuis le XVIe siècle, disons, c'est une idéologie qui n'a fait que croître. Elle a vraiment été branlée, cette idéologie, au moment de la première bombe atomique. Hiroshima, Nagasaki, c'est des dates qui ont une incidence culturelle extrêmement profonde. Parce qu'on s'est rendu compte que la confiance aveugle mise dans la science et dans la technique était fausse. Parce que il y a dans la science, dans la technique, qui en eux-mêmes sont des biens, il y a une grande ambiguïté parce que l'usage que l'on en fait peut être pour le bien ou pour le mal. Alors le pape insiste beaucoup que le vrai progrès est progrès pour le bien et que le progrès scientifique comme tel ne nous conduit pas nécessairement au bien et qu'il a besoin d'être réglé par l'éthique, par la morale et donc aussi par la rencontre avec Dieu parce que la morale chrétienne n'est qu'une expression de la volonté de Dieu et de l'amour de Dieu qui se communique à nous.
Il y a également une profonde réflexion sur deux étapes qu'il juge essentielles, la Révolution française et la Révolution prolétarienne. Pourquoi avoir choisi ces deux moments déterminants?
Alors, il a choisi deux moments parce que dans la conception de l'idéologie du progrès continu et quasi nécessaire de l'humanité, beaucoup ont pensé que ces progrès étaient progrès de la raison et de la liberté. Or, ces deux révolutions se sont faites au nom de la raison et de la liberté. Et quand Marx, qui est beaucoup cité, réfléchit à la Révolution française, il voit dans la Révolution française une première étape de la pleine libération de l'homme. Alors, en même temps qu'il y a cette affirmation, cette reconnaissance de l'importance idéologique de la Révolution française et de la Révolution soviétique, il y a aussi la critique, il y a eu une erreur de fond. Et l'erreur de fond, selon l'analyse du pape, c'est que Marx, dit-il, sa grande erreur était le matérialisme, c'est de croire que les structures comme telles sociales pouvaient rendre l'homme heureux, alors que finalement, on est renvoyé à la raison prise selon toute son amplitude, c'est une raison qui n'est pas fermée aux lumières de Dieu, et à la liberté aussi. Mais la liberté est une chose qui est, comme il dit, sans cesse nouvelle. Et d'autre part, la liberté n'est jamais uniquement ma liberté, mais elle est notre liberté. Donc l'idée qu'une fois pour toutes on aura le règne de l'homme sur la terre, c'est une grande illusion.
Il y a dans cette encyclique un appel à une autocritique du christianisme moderne. À quoi fait-il référence?
Il fait référence à un certain repli des chrétiens sur eux-mêmes et à un manque d'engagement dans certains domaines où se joue l'avenir du monde. Parce que tout en insistant sur la dimension transcendante de l'espérance, il met que l'espérance authentique, la grande espérance, comme il dit, a aussi des incidences sur les choses humaines, disons les choses temporelles, les choses de la cité. Et là, la présence des chrétiens est requise.
Et enfin, une demande un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette encyclique?
Je crois que c'est le thème même, le fait qu'il ait choisi et rappelé cela. Et je trouve aussi la profondeur de la méditation, cette volonté et cette intention qu'a le pape de toujours montrer que le message chrétien n'est pas un message, je dirais, détaché des choses de ce monde, mais qu'au contraire, il a une incidence quasi intérieure au devenir de l'histoire, même s'il est transhistorique, s'il va au-delà.